Maintenant, pour la quatrième partie, sur les effondrements et les émotions que ça peut susciter chez chacune et chacun d'entre nous, je vais passer la parole à Delphine Bateau.
Donc, en fait, là, on a parlé du rapport Meadows, des limites planétaires et du GIEC. Et donc, moi, je vais essayer d'expliquer l'effondrement et la collapsologie pour un enfant de 9 ans. Ça, en fait, c'est le scénario dit business as usual, issu du rapport Meadows. Et donc, on voit bien qu'en fait, si on continue mécaniquement sur la trajectoire sur laquelle nous sommes en termes d'augmentation de la production industrielle, de la consommation, de la population, etc., etc. On a mécaniquement en fait une diminution des ressources sur une planète qui est limitée et qui a un certain nombre de limites physiques et qu'à un moment donné, en fait, ça craque. Et donc, à un moment donné, de façon assez mécanique, on a un processus de décroissance, mais de décroissance subie, et donc d'effondrement potentiel, mais qui est subi, qui n'est pas choisi, qui n'est pas organisé en bon ordre. Alors, vous avez certainement entendu parler de la notion d'effondrement, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un système extrêmement vulnérable qui est hyper interdépendant. Je pense que l'exemple évident qu'on peut prendre, c'est la situation actuelle ou celle qu'on a vécue avec le Covid, c'est-à-dire comment un événement qui n'était pas un événement prévu, même si en fait il avait été prévu par l'Organisation mondiale de la santé avec de nombreux rapports sur les zoonoses et sur ce que de nouvelles pandémies pouvaient générer au niveau mondial, met à l'arrêt l'économie mondiale pendant un certain temps et a des répercussions en cascade. Et comment aujourd'hui, par exemple, j'essaye d'expliquer la notion d'interdépendance, par exemple, vous avez eu un certain nombre d'événements climatiques tout au long de l'année 2021 qui ont eu des conséquences sur, par exemple, la quantité de récolte de céréales qui entraînent une augmentation du prix du blé, que parallèlement en France, vous avez eu un épisode, donc je dis ça en lien avec ce qui a été expliqué par Dimitri sur le rapport du GIEC, vous avez eu un épisode de gel tardif après un hiver anormalement doux qui a provoqué la plus grande catastrophe agricole depuis extrêmement longtemps, qui a coûté 5 milliards d'euros à l'État et qui a mis par terre les récoltes de la viticulture. Moralité, hier soir, vous aviez au journal de 20h un reportage sur l'augmentation du prix de la moutarde, donc avec les graines de moutarde d'un côté dont le prix a augmenté à cause des problèmes de production agricole et d'un autre côté un ingrédient de la moutarde qui est le vin dont le prix a augmenté de 100%, moyennant quoi le prix de la moutarde a augmenté de 20%. Et on peut multiplier les exemples que l'on voit à l'heure actuelle en fait de l'hypervulnérabilité de sociétés organisées dans une grande complexité à flux tendu et dépendante de chaînes de production mondiale. Donc en fait, la notion d'effondrement, une fois qu'on a compris, j'allais dire, les bases du rapport Meadows et des limites planétaires, la notion d'effondrement, en fait, elle est définie aujourd'hui comme un ensemble de facteurs concomitants qui conduirait à une incapacité temporaire ou définitive de la biosphère à offrir des conditions de vie acceptables. C'est la définition qu'en est donnée par l'Institut Momentum. Donc, l'Institut Momentum qui regroupe beaucoup de personnes qui sont conscientes des enjeux autour de la décroissance, ce qui a été créé par Yves Cochet, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une nouvelle définition. Il y avait précédemment une définition de l'effondrement qui était basée sur la notion que l'effondrement, c'était à partir du moment où en fait les besoins de base, c'est-à-dire le fait de boire, de se nourrir, se loger, se vêtir, etc., ne pouvaient plus être fournis à une majorité de la population. Donc en fait, il découle de ce qu'on a vu précédemment sur les données du rapport Meadows qui se sont quand même plutôt vérifiées par l'expérience, du fait que les limites planétaires barrières sont dépassées. Des rapports du GIEC sur le réchauffement climatique qui, eux aussi, sont des modélisations scientifiques qui ont été confirmées par les faits, voire sont encore plus violentes dans les faits constatés que dans les modélisations scientifiques, que nous sommes clairement sur une trajectoire de dynamique d'effondrement des conditions d'habitabilité de la Terre, avec une accélération extrêmement violente, et où on voit en fait que sur l'ensemble des paramètres, que ce soit ceux que vous avez évoqués relatifs à l'agriculture et à la production alimentaire, on est sur des courbes qui s'envolent et donc sont porteurs d'une dynamique d'effondrement de nos sociétés. Alors là, j'ai mis un S à effondrement dans une correction de mon propre manifeste. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est important. La notion d'effondrement, c'est pas, comment dire, la fin de la planète Terre, où c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, celui dans lequel nous vivons, c'est-à-dire la civilisation thermo-industrielle. Et donc, je vous ai mis la définition dans l'ouvrage de référence sur l'effondrement, qui est celui de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, « Comment tout peut s'effondrer », qui est un livre qui a été publié, c'est assez intéressant, il a été publié en 2015. Et en fait, il a connu une grande notoriété en circulant, en fait, j'allais dire, de bouche à oreille, d'abord à bas bruit. C'est un livre qui a été plusieurs fois épuisé en fait en librairie à partir de 2018, 2019, 2020, alors même qu'il a été publié en 2015. Donc c'est assez intéressant comme processus en fait de pénétration des idées et des réflexions. Donc eux, ils donnent la définition suivante. Nous envisageons l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle ou même plus comme un processus géographique hétérogène, donc ça veut dire que tout s'effondre pas d'un coup, qui a déjà commencé. Donc ça renvoie au fait que on a déjà dépassé notamment le peak oil, on a déjà dépassé les limites planétaires, on est déjà dans un certain nombre de vulnérabilités liées aux interdépendances et à la complexité de nos sociétés, mais qui n'a pas encore atteint sa phase la plus critique et qui se prolongera sur une durée indéterminée. C'est à la fois lointain et proche, lent et rapide, graduel et brutal. Cela ne concerne pas seulement les événements naturels, donc ça, on fait référence aux catastrophes climatiques, et je fais exprès d'appeler ça des catastrophes climatiques et non pas des catastrophes naturel, parce que ce ne sont pas, quand on vous parle des morts de la vallée de la Roya, ou quand on vous parle, comme je viens de le faire, de l'épisode de gel tardif de l'année dernière, ou de la canicule d'hiver que nous avons subi cet hiver en montagne avec des températures extrêmement anormales et un isotherme zéro qui était remonté à 3000 mètres, ce qui ne s'est jamais vu pour un 30 décembre. C'est des catastrophes climatiques et non pas des catastrophes naturelles. Et après, il continue, cela ne concerne pas seulement les événements naturels, mais aussi et surtout des chocs politiques, économiques, sociaux, des événements d'ordre psychologique comme le basculement de conscience collective. Donc ça, c'est la définition qu'il donne au terme d'effondrement. Je voulais vous conseiller une vidéo qui explique tout en moins de 30 minutes, qui est la vidéo d'Arthur Keller, qui est extrêmement pédagogique en fait sur le choix auquel nous sommes en fait, qui est de subir ou de choisir une décroissance organisée en bon ordre et de façon volontaire. Et je la signale parce que cette vidéo de Next, donc, a été réalisée par Clément Montfort avec Arthur Keller. Elle est hyper claire, elle est hyper pédagogique et qu'elle explique vraiment très bien en quoi le fait qu'on dépasse ce qui s'appelle les biocapacités en fait, du système Terre conduit mécaniquement à ce que ça s'effondre comme une espèce de château de cartes qui serait basé sur un socle extrêmement instable et sur des sables mouvants. Ça m'amène la question de l'effondrement ou des effondrements à ce qu'est la collapsologie. Donc la collapsologie, ça vient du latin collapsus, et donc c'est l'étude de l'effondrement, et la collapsologie est donc une notion qui a fait son entrée dans le Petit Robert de façon assez récente, et qui se définit comme un courant de pensée annonçant l'effondrement de la civilisation industrielle. Pablo Servigne et Raphaël Stevens, ils définissent la collapsologie comme l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle, industriel ou de ceux qui pourraient lui succéder, et le définit comme un exercice transdisciplinaire qui intègre en fait plein de dimensions, c'est-à-dire l'écologie, l'économie, la physique, la sociologie, la psychologie, etc. Je ne fais pas toute la liste, mais donc on est vraiment dans une approche qui est une approche systémique, parce qu'en fait, la compréhension des dynamiques d'effondrement, elle est évidemment basée à la fois sur des réalités physiques, c'est-à-dire les limites du système Terre, et à la fois une analyse systémique, c'est-à-dire l'étude de la dynamique des systèmes qui fait que, très concrètement, la mise à l'arrêt d'usines de supraconducteurs en Chine peut mettre à l'arrêt des usines Renault en France, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez la mécanique d'interdépendance qu'on a d'ailleurs vécu grandeur nature sur les masques, les produits d'anesthésie, etc., dans la première phase de confinement, c'est-à-dire cette notion d'interdépendance et de vulnérabilité liées aux délocalisations industrielles et à la mondialisation de l'économie. Alors, la collapsologie, à partir de 2018-2019, donc là, je vais faire un commentaire un peu plus politique, elle a suscité un vrai effet de secouer le débat public sur les enjeux écologiques. Et donc, elle a notamment, en lien avec les mobilisations de la jeunesse pour le climat, elle a fait irruption, en fait, dans le débat public. Donc, je vous ai mis un certain nombre de unes de magazines qui ont largement diffusé, en fait, ces idées, parfois avec un certain nombre de malentendus autour, dont je vous ai mis des exemples. Voilà, et si tout s'effondrait, tout va s'effondrer, alors demain l'effondrement, Philosophie Magazine sur la collapsologie, etc. Évidemment, ça n'a pas manqué de susciter l'irruption dans le débat public d'une angoisse existentielle sur la vulnérabilité de nos sociétés et la façon dont tout est en train de se casser la gueule, de ce qu'on appelle un backlash, c'est-à-dire d'un combat idéologique porté par les adversaires de l'écologie. Donc, on arrive à la suite, depuis notamment le 2019 et les victoires aux élections municipales des écologistes, un combat sur le plan médiatique qui a été porté de façon extrêmement radicale contre la conscience, en fait, des risques d'effondrement, contre la conscience de notre vulnérabilité liée aux dynamiques d'effondrement. Alors, la collapsologie, si j'y reviens, c'est un univers qui est marqué par un certain nombre de figures. J'en ai mis quelques-unes. Bon, donc là, vous retrouvez les visages de Pablo Servigne, de Raphaël Stevens. Il y a aussi Aurélien Barraud qui a pris la parole dans le débat public sur ces enjeux. Vincent Mignerot est quelqu'un qui développe une approche extrêmement intéressante, en fait, qui est davantage axée sur les dimensions, en fait, de sécurité liées aux dynamiques d'effondrement. J'ai mis Arthur Keller, bien que Arthur Keller, en fait, donc c'est assez intéressant son point de vue, lui conteste la notion de collapsologie. En fait, il dit la collapsologie, en fait, c'est pas une science, et il a un point de vue, j'allais dire, en désaccord avec d'autres acteurs de cette sphère un peu protéiforme qu'on appelle la collapsologie, parce qu'il dit ils ont fait l'erreur que la collapsologie soit une espèce d'objet non identifié qui n'est pas une science, en fait, qui n'est pas suffisamment rigoureuse et qui mélange des choses qui sont de l'ordre de l'intuition avec des choses qui sont de l'ordre de la rationalité scientifique, physique, etc. Il y a enfin Yves Cochet qui donc est celui qui est à l'origine d'une des définitions de l'effondrement que j'ai donné tout à l'heure. Et en fait, dans l'ensemble de cette sphère des personnes qui sont conscientes des risques d'effondrement et des dynamiques d'effondrement dans lesquelles nous sommes entraînés, il y a un certain nombre de controverses tout à fait légitimes sur lesquelles je peux donner un petit peu un point de vue qui est à la fois collectif et qui est à la fois personnel. C'est d'abord l'affirmation de la lucidité et de la reconnaissance des dynamiques d'effondrement dans lesquelles nous sommes engagés. Ça, c'est pour moi un fait acquis. Ensuite, je préfère, comme d'autres et comme Dominique Bourg notamment, parler d'effondrement au pluriel, parce qu'en fait, quand on dit l'effondrement au singulier, c'est comme si, si vous voulez, on attendait la date à partir de laquelle tout va se casser la gueule, alors que si ça se trouve, nous sommes sur des processus qui sont davantage par paliers et qui ont plusieurs dimensions. Par exemple, l'effondrement de la biodiversité, il s'est déjà produit, c'est-à-dire que c'est malheureusement d'ores et déjà un fait constaté, ce n'est pas une prévision scientifique pour plus tard en ce qui concerne l'effondrement de la biodiversité. Donc voilà, il me semble que parler d'effondrement au pluriel est plus clair et plus honnête intellectuellement que parler de l'effondrement avec un grand E et au singulier, comme si c'était une date de basculement prévisible. Et donc, en ce sens, je m'inscris en différence avec la façon dont vous avez dû voir Yves Cochet intervenir régulièrement dans le débat public en disant tout va s'effondrer en 2020, puis tout va s'effondrer en 2025, puis tout va... Voilà, c'est pas ça en fait le raisonnement sur les dynamiques d'effondrement dans lesquelles nous sommes engagés, à mon sens, à mes yeux, c'est pas de dire qu'à telle date, c'est la fin du monde. C'est qu'on est sur une trajectoire d'effondrement et c'est pas tout à fait le même raisonnement. Deuxièmement, en fait, dans les raisonnements de la collapsologie, il y a un point de vigilance à avoir par rapport à des visions extrêmement déterministes, en fait, basées sur le peak oil est basé sur le renchérissement du coût de l'exploitation des énergies fossiles comme étant le point de basculement en fait dans un effondrement. Pourquoi il faut avoir un point de vigilance par rapport à ça? D'abord parce que ce raisonnement est basé sur le pétrole et qu'il oublie les ressources existantes en charbon. Et ensuite, parce qu'en fait, dans ce mode de raisonnement, il n'y a pas l'intégration du fait qu'entre-temps, il y a le changement climatique et que j'allais dire d'ici que ce soit plus du tout rentable d'exploiter les énergies fossiles, excusez-moi de la caricature, mais on sera tous morts par en fait l'effet du changement climatique, c'est-à-dire qu'on aura déjà largement franchi les 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, etc., avant qu'il n'y ait plus aucun modèle économique d'exploitation des énergies fossiles, alors que souvent, en fait, dans les raisonnements sur la dynamique d'effondrement, il y a le renchérissement de l'exploitation des énergies fossiles comme étant un point de bascule de la vulnérabilité des sociétés les conduisant à une dynamique d'effondrement. Donc voilà, j'ai une certaine distance avec ces raisonnements extrêmement mécanistes qui oublient en fait l'accélération en cours du changement climatique. Et puis, il y a un élément aussi de critique important. C'est que, en fait, quand on est sur des modes de raisonnement disant à telle date, c'est la fin du monde, etc., ce qui donc n'est pas le propos, je pense que je l'ai clairement expliqué, ben, ça peut nourrir en fait des logiques qui sont des logiques individualistes, survivalistes, genre je vais m'occuper moi-même de me mettre à l'abri, que vous avez aujourd'hui en fait ce que Bruno Latour développe très bien dans ses ouvrages, une forme de séparatisme des riches. Vous avez des témoignages concrets, par exemple, de Gaël Giraud sur le fait que un certain nombre de personnes extrêmement riches, par exemple au Royaume-Uni, sont déjà en train de s'acheter des maisons avec abri en Nouvelle-Zélande ou en Norvège parce qu'ils ont fait l'analyse que dans le cadre de l'accélération du réchauffement climatique, ce seraient les endroits qui resteraient à peu près vivables et qu'en fait, le propos pour nous sur un plan politique n'est pas d'encourager une logique survivaliste individuelle, chacun pour soi, mettons-nous à l'abri en attendant la fin du monde, c'est de savoir comment on peut agir ensemble pour le transformer et faire face au risque d'effondrement et organiser notre résilience. Ensuite, dans la photo que j'ai mise volontairement, il y a un truc d'abord, il manque des figures hein, de la collapsologie ou des personnes qui parlent d'effondrement. Mais surtout, il y a un truc qui doit frapper plusieurs d'entre nous, c'est qu'il n'y a que des mecs. Et que donc, en fait, on est dans un raisonnement au point de départ sur l'effondrement, qui n'a pas spécialement intégré l'écoféminisme et qui transmet en fait une vision et, somme toute extrêmement sombre avec des éléments rationnels hein, de contenu de l'avenir, mais qui n'est donc pas spécialement écoféministe. Et en fait, c'est ce qui a conduit, donc j'ai mis les deux bouquins suivants de Pablo, en fait, l'ensemble de ces critiques ont conduit Pablo Servigne, Gauthier Chapelle et puis aussi avec Raphaël Stevens à deux ouvrages que je recommande. Donc vraiment, ma recommandation, c'est de ne pas seulement lire « Comment tout peut s'effondrer tout seul », c'est de lire les trois, mais d'aller en fait vers les perspectives. C'est-à-dire qu'une fois qu'on élucide sur les risques d'effondrement auxquels nous mène la pente actuelle de nos sociétés et de leur mode de développement, et ben de se pencher vers les chemins possibles en fait pour l'humanité. Donc il y a deux livres assez intéressants qui intègrent justement cette dimension écoféministe. Il y a donc l'entraide, l'autre loi de la jungle. Donc ça, c'est pour combattre le récit dont on a hérité depuis tout petit sur le fait que la vie, c'est la lutte pour les ressources, c'est la guerre, etc., etc. Donc c'est un argumentaire assez étayé en fait sur en quoi le vivant et les humains sont des êtres sociaux qui sont plutôt faits pour coopérer en fait. Et l'autre, enfin le dernier, c'est Une autre fin du monde est possible. Donc je pense que le titre est assez explicite pour que je ne développe pas. Donc pour essayer de bien expliquer, je me suis penchée sur mes propres écrits, c'est-à-dire qu'en fait par rapport aux dynamiques d'effondrement au pluriel qui sont en cours, la question n'est pas de savoir si on est optimiste ou pessimiste, c'est qu'il y a d'abord un combat pour la lucidité, il y a un combat contre l'aveuglement, il y a un combat pour dire la vérité. C'est d'ailleurs ce que demande la jeunesse mobilisée pour le climat. Elle demande d'écouter les scientifiques et elle demande que l'on dise la vérité. Et il y a une propagande dont je vous ai donné des exemples tout à l'heure sur le point valeur actuelle, etc., mais ça va malheureusement bien au-delà de ça, qui nie en fait la dynamique d'effondrement qui est en cours, qui fait comme si ça n'existait pas. Encore tout à l'heure, j'étais à un débat à la télévision face à quelqu'un qui niait le fait que l'élévation du niveau de la mer telle qu'elle est prévue par le GIEC va rayer un certain nombre de cartes et de territoires de la carte de France métropolitaine. Donc, il y a une lutte contre le déni, en fait, et donc il y a dans cette notion d'effondrement quelque chose qui brise, en fait, le mur du déni, et ensuite la nécessité de porter une vision écoféministe de l'effondrement, c'est-à-dire pas simplement, si vous voulez, les lamentations sur c'est la fin du monde, c'est horrible, etc., etc., mais qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut transformer le modèle de société actuel. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça amène à aller sur le terrain des ressentis. Beaucoup d'entre nous, le fait de réaliser avec lucidité qu'on est sur une trajectoire qui est une trajectoire totalement mortifère et somme toute en fait suicidaire pour l'humanité qui est en train de détruire ses propres conditions d'existence, parce que ça revient à ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Et chacune et chacun d'entre nous arrive à ce point de lucidité de façon potentiellement extrêmement différente. Donc, en fait, il y a des personnes pour qui c'est une espèce de prise de conscience subite. C'est-à-dire que vous avez une vie normale, vous vivez votre vie de tous les jours, etc. Et puis, un jour, petit à petit ou pas, vous entrez dans la prise de conscience des problèmes écologiques, vous allez au bout des raisonnements qui vous amènent à comprendre qu'il y a un risque d'effondrement qui fait que le monde que vous connaissez n'existera plus demain ou sera extrêmement différent, etc. Et c'est un choc sur le plan émotionnel et psychologique extrêmement dur et extrêmement violent. D'autres personnes dont je fais partie, c'est une prise de conscience qui s'est faite par étapes depuis l'adolescence, mais où, en fait, toutes les angoisses existentielles en fait, qui sont derrière, vous travaillez en permanence, étape par étape, de prise de conscience en prise de conscience, mais où ça ne se fait pas, si vous voulez, brutalement, où tout d'un coup, vous ne connaissiez rien des problèmes écologiques et du jour au lendemain, vous apprenez tout. Et donc, en fait, ce qui est important de dire à cette étape de la formation par rapport à tout ce qui a été expliqué depuis le début, c'est qu'en fait, l'ensemble des informations, des prises de conscience, etc., sur lesquelles on échange, c'est normal que ça nous affecte en tant qu'être humain. C'est normal de ne pas être insensible. C'est normal que ça nous travaille. C'est normal que ça nous provoque un certain nombre d'émotions. Et cette question des émotions, elle est centrale à la fois à titre individuel, mais elle est aussi centrale d'un point de vue politique, parce qu'en fait, l'ensemble de notre société, quand on s'interroge sur comment ça se fait qu'on a toutes les informations scientifiques pour comprendre les processus auxquels on est confronté, comment ça se fait qu'en fait, il y a autant de déni, comment ça se fait qu'on n'agisse pas, etc., etc. Et parmi les facteurs d'explication, il y a plein de choses. Il y a le poids des lobbies, il y a le conservatisme politique, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont liées à des mécanismes psychologiques, qui sont les mécanismes de fuite, d'évitement et de déni face à la reconnaissance d'une réalité difficile. Et donc, on va vous mettre le lien d'une conférence qu'on a faite avec notamment Charline Schumberger et Christophe André sur cette question des émotions. Et je pense que c'est important que dans cette séance, dans ce cycle de formation sur la décroissance, on prenne un temps aussi pour parler des émotions, que la conscience de ce que signifient les limites planétaires, les rapports du GIEC, etc., entraîne aussi pour chacune et chacun d'entre nous en termes de ressenti. Et donc, ça s'appelle l'éco-anxiété. Donc, l'éco-anxiété, en fait, c'est l'angoisse de voir l'état du monde empirer, se dégrader, aller vers des dynamiques d'effondrement. Il y a une autre notion qui est importante, c'est celle de solastalgie. Donc, par exemple, la solastalgie, moi, c'est ce que je ressens à titre personnel quand je retourne dans un endroit que j'ai fréquenté enfant et qui a été complètement défiguré. Et donc, en fait, c'est la solastalgie, c'est plus la peine ou la tristesse pour la destruction perceptible de la nature ou d'espèces, etc. Et ce n'est pas toujours quelque chose de conscient, c'est parfois quelque chose qu'on ressent de façon intuitive. Là, j'ai mis la citation de Glenn Albrecht, que ce soit l'éco-anxiété ou la solastalgie ne sont pas des maladies mentales. Donc, je voudrais insister là-dessus. Ce ne sont pas des pathologies. C'est en fait notre système d'alarme d'être humain qui nous dit « Ouh !» Il y a un problème, il faut que tu réagisses. Christophe André, dans la conférence qu'on avait fait, avait pris l'image, vous savez, dans les mines autrefois, pour éviter les coups de grisou, les mineurs, ils emmenaient un oiseau avec eux, parce que l'oiseau, il était capable de détecter le coup de grisou avant que ça pète. Et en fait, ces émotions, que ce soit l'éco-anxiété ou que ce soit la solastalgie, c'est comme si en fait notre système d'alarme du corps humain, qui est quand même fait pour nous signaler des dangers, était en train de nous éveiller à la conscience d'une menace et d'un danger. Donc, ce sont des processus qui sont parfaitement normaux et qui ne relèvent pas de la maladie mentale ou du trouble, même si ça peut se traduire par un certain nombre ça peut conduire à des troubles relatifs, par exemple, au sommeil, à l'alimentation, etc. Mais au point de départ, ce ne sont en rien des maladies et c'est parfaitement normal de ressentir de l'éco-anxiété et de la solastalgie. C'est plutôt pas normal de ne pas en ressentir. Là, je vous ai conseillé quelques bouquins sur ces sujets. Donc, celui de Glenn Albrecht, j'allais dire, c'est le plus théorique sur les émotions de la Terre. Après, il y a deux bouquins un peu plus grand public, en fait, celui d'Alice Débiol sur l'éco-anxiété et celui d'Antoine Pélisseau qu'on a auditionné il n'y a pas très longtemps à Génération Écologie sur les émotions du dérèglement climatique. Et après, il y a un bouquin sympa que je conseille, qui est celui de Laure Noyla sur comment rester écolo sans finir dépressif, où elle raconte son propre cheminement en fait, par rapport à la reconnaissance et la conscience des effondrements et ce que ça a changé dans son approche de la vie. Il y en a un autre que j'aurais dû mettre qui n'y est pas, qui est le magnifique livre de Corinne Morel-Darleux. Et c'est vraiment un livre magnifique sur les émotions et les considérations relatives à l'effondrement et ce qu'elle appelle le refus de parvenir. Et je passe la parole à Dimitri pour raconter un peu les différents processus et étapes de nos émotions.
Merci beaucoup Delphine. Effectivement, on va pas vous laisser tomber comme ça après avoir parlé d'éco-anxiété, tous les éléments qu'on vous a donnés juste avant. Il y a une première chose hein, qui est vraiment essentielle, c'est finalement si vous ressentez ça, c'est d'abord, et ça semble assez évident, mais de le partager avec d'autres personnes avec qui vous avez confiance, avec des personnes qui l'ont potentiellement vécu, hein, parce qu'on le voit en fait qu'on passe à travers une courbe qui ressemble très fortement à la courbe du deuil, puisque souvent d'ailleurs, il y a une potentiellement une étape de déni, hein, on dit non, ça n'existe pas, ou le réchauffement climatique n'existe pas, la colère, où on dit bah non, on aurait dû me prévenir avant, et puis là, j'apprends ça tout de suite, là, ou alors le marchandage, qui est un peu aussi toutes les techniques, un peu de toutes les technologies qui disent bah oui, on va résoudre le problème. Et effectivement, à un moment, on accepte ça et on rentre potentiellement la tristesse, parfois la dépression. Ce qu'il faut se dire, c'est que de toutes les manières, les choses vont aller mieux par la suite. Donc, si vous êtes au fond du trou, entre guillemets, dites-vous qu'après ça va remonter pour justement, au fur et à mesure, vous reconstruire. Et là-dessus, il y a un point qui est essentiel, c'est que vous pouvez vraiment, pour sortir de l'éco-anxiété, agir. Il y a plusieurs manières d'agir. Alors, vous pouvez agir, faire sa part, mais je pense que ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est d'agir de manière collective. Et vous pouvez le faire aussi bien en tant que citoyen. Alors, il y a bien sûr les élections présidentielles, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez bien sûr intervenir auprès des élus locaux, de votre maire, d'un certain nombre de personnes. Vous pouvez intervenir en tant que consommateur, et notamment à travers des services courts ou d'autres éléments. Puis aussi en tant que salarié, hein, il y a notamment ce qu'on appelle les collectifs. Ce sont notamment des associations qui sont au sein des entreprises, y compris dans des entreprises qui sont carbonées, hein, qui vous permettent vraiment de s'associer et après de changer les choses de l'intérieur ou de l'extérieur. Et puis après, en termes d'engagement collectif, vous pouvez bien sûr vous associer. Alors bien sûr, il y a Génération Écologie. On en a parlé un petit peu auparavant. Il y a quelques shifters, donc du Shift Project. Il y a pour un réveil écologique, pour les étudiants, je ne sais pas s'il y a des étudiantes ou des étudiants, mais aussi qui sont en train de faire beaucoup bouger les choses parce que bah, ils le vivent encore plus fortement que nous, parce qu'ils vont le vivre encore plus longtemps que nous. Hein. Et donc, il y a un engagement qu'on peut avoir à ce niveau-là, mais même parce que, et c'est vrai que là, on se dit, bah oui, la tâche va être dure, parce que le climat, on ne va jamais arriver tout seul à changer quelque chose. En réalité, on peut agir déjà à titre local, sur le plan local, et avoir des impacts en travaillant même sur des projets qui soient locaux. Ça peut être, comme je dis, des circuits courts, ça peut être des potagers partagés, ça peut être créer des îlots de fraîcheur ou autre chose pour à la fois atténuer notre impact, ou ça peut être du zéro déchet. Enfin, il y a plein d'initiatives de ce type-là, soit atténuer notre impact, mais aussi apprendre à s'adapter. Et c'est un point qui est essentiel parce que si on anticipe potentiellement, alors c'est vrai que ce n'est pas toujours évident non plus à entendre, mais se dire, bah tiens, peut-être potentiellement ma maison ou chez moi, ça va être inondé ou je ne vais plus avoir d'électricité, mais le fait d'anticiper et potentiellement de partager aussi cela avec d'autres personnes, eh bien, on trouve des solutions et on est dans une dynamique qui est beaucoup plus positive de construction. Et pour terminer, il y a un point qui est essentiel, c'est au travers de ça. Ce qu'on crée aussi, c'est de la solidarité. C'est la solidarité entre nous. Et il faut transformer cette éco-anxiété que l'on a en justement quelque chose de positif entre nous. Parce que cette solidarité va devenir essentielle par la suite. C'est ce qui va faire qu'on a envie, justement, et en croire dans notre société de demain. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup Dimitri, merci beaucoup Delphine.